j'aimerais qu'on continue sur notre série. Et on était dans Hébreux 11. Rappelez-vous, en début janvier, la semaine de l'Alliance évangélique. D'ailleurs, au niveau de l'Alliance, je salue, on a notre frère Julien Nathanaël Petit, le pasteur réformé d'ici, qui nous fait une petite visite, une petite surprise. Sois le bienvenu. Et voilà, donc, suite à cette semaine que nous avions, on a parlé de Hébreux 11 dans la prière. Et on avait commencé des enseignements dessus, et entrecoupés par nos visiteurs, Richard Hayes, etc. Et j'aimerais qu'on continue. C'est le quatrième de cette série, mais j'aimerais inscrire ce quatrième enseignement dans ce qui s'est fait les semaines passées, et en particulier dans ce message sur la justice qui a été donné par Richard Hayes. Alors là, en relisant un peu les notes des messages d'avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais beaucoup insisté sur la notion de justice. Nous sommes justifiés. Et juste pour vous rappeler, même l'arche, on parlait de la foi de Noé, et l'arche elle-même qui était enduite de poids, et cette poids en hébreu, c'est kiper, ça veut dire, ça nous parle de l'expiation. Le mot même nous parle d'une expiation, quelqu'un qui prend à notre place. Et cette arche qui protégeait Noé nous parle de la justice. Nous parle de la justice. Dans le mot même, il y a ce terme de justice. Et c'est une image de la justice dont on est revêtu et qui nous protège et qui nous revêt tous autant que nous sommes. Donc ce moment de justice, on le voit déjà. Et on va continuer avec Abraham. Alors prenons la parole dans Hébreux 11. Et je vais inscrire cela dans ce que vous avez déjà entendu. Je voulais un peu poser des questions ce matin en me disant, bon, est-ce qu'ils ont retenu quelque chose de week-end avec Richard Hayes? Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas très correct de le faire. Mais bon, c'est ma déformation peut-être d'enseignant parfois. Une petite interrogation, hein, pourquoi pas? Alors, bon, quelques questions. Hein. Voilà. Est-ce que on est juste à 90% ou à 100%? À 100%. Voilà. Et même si tu as désobéi hier, tu es juste aujourd'hui 100%. Tu es sûr? Oui. Pourquoi Jésus a dû obéir jusqu'au bout? Pour respecter la loi jusqu'au bout. Et quel était accomplir la loi? Et le but de l'accomplissement de la loi, c'était quoi? C'était, voilà, la justice. C'était accomplir la justice. Et à son baptême, il a dit, voilà, je dois accomplir toute justice et les cieux s'ouvrent. Et rappelez-vous, dans Deutéronome 28, il est parlé des bénédictions et des malédictions. Et celui qui obéit à toute la loi, les cieux vont s'ouvrir pour lui. Personne d'entre nous, on a obéi à toute la loi. Mais il y en a un qui l'a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on peut demander avec assurance que les cieux soient ouverts. Ce n'est pas mon obéissance qui m'établit devant Dieu, mais c'est l'obéissance de Jésus qui m'établit devant Dieu. Alors ça, c'est extraordinaire. Et en continuant sur le message de la foi, eh bien, j'aimerais vous dire que c'est exactement la suite, je pense, de tout ce qu'on a vu, et ça s'enchevêtre tout ça. Et on va prendre à partir d'où on en était la dernière fois, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Alors là, il y a quelque chose d'étonnant. Ce texte-là nous parle aussi de la justice. Abraham était un homme que Dieu a déclaré juste. Et c'est assez étonnant. Et c'est sa foi, c'est à cause de sa foi qu'il a déclaré juste. Et nous avons ça dans Romains chapitre 4. Alors là, vous avez tout un chapitre dans Romains qui nous parle de pourquoi Abraham a été justifié par Dieu. L'auteur s'adresse aux Hébreux. Et les Hébreux, les rabbins avaient dit, mais Abraham, c'est un homme de Dieu formidable. Regarde tout ce qu'il a fait. C'est à cause de ce qu'il a fait que Dieu l'a déclaré juste. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il répond à ce faux enseignement en disant, ce n'est pas à cause de ce que Abraham a fait qu'il a été déclaré juste, mais c'est à cause de sa foi. C'est parce qu'il a eu foi en Dieu qu'il a été déclaré juste. Alors, on voit ça dans Romains 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et j'aimerais dire ceci, tout l'enseignement qui était reçu sur la justice, si nous ne l'approprions pas par la foi, eh bien, c'est lettre morte. On dit que c'était un super enseignement. Et puis du coup, on reste là. Et en fait, la foi, c'est ce que Dieu nous donne pour nous approprier tout ce qu'il nous donne. Voilà. Il veut nous donner des choses tellement plus grandes que ce que nous sommes capables de prendre. Voyez. Mais par la foi, on peut recevoir les choses qu'il a à nous donner. Et donc, la justice de Dieu, ce message, nous sommes justifiés, rachetés, ça se prend par la foi. C'est comme ça qu'on le fait devenir nôtre. Et Abraham, bien avant donc le Nouveau Testament, Dieu l'a déclaré juste. Je continue, Romains 4, « À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Et plus loin, regardez, il est dit, « Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. » Il n'avait pas les marques de la loi dans sa chair, mais avant la loi, déjà, il y avait une marque de justice. Et plus loin, il est dit, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. » Et regardez, l'héritage du monde promis à Abraham et à sa postérité. C'est qui la postérité d'Abraham? C'est nous. Hein, c'est nous. Et donc, ce n'est pas un héritage seulement dans le ciel, mais donc c'est un héritage, c'est le monde, c'est la terre qui a été donnée en héritage aussi. Et alors, il est dit, promis à Abraham à sa postérité. Donc, la postérité, c'est Jésus, mais au travers de Jésus, c'est nous. Et il est dit, c'est par la justice de la foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors voilà, je me dis, l'ingrédient, l'essence, le carburant, pour que nous rentrions dans notre héritage, c'est simplement la confiance dans la parole de Dieu qui nous dit « voilà ce que j'ai fait pour toi ». Voilà. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ces messages de Richard Hayes. J'ai beaucoup apprécié aussi l'exemple des chameaux et combien tu vaux de chameaux. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui le... De vaches. Ah oui, c'était des vaches, oui. C'est... Ce pêcheur qui, dans les îles de Polynésie, hein, où on achète des femmes, sa femme, on doit l'acheter avec des vaches, hein. C'était la dot, voilà. Et puis, en général, on les achetait à 3 vaches, et puis lui, il achetait la sienne à 10 vaches. Et tout le monde lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? C'était pas 8? C'était 18, d'accord, bon. Et du coup, cette femme qui se sentait si moche, si timide, elle s'est sentie belle. Elle s'est sentie précieuse parce que son bien-aimé l'avait acheté à tant de vaches. Et bien de la même façon, Dieu nous a achetés. Hein, et il nous a achetés à un tellement grand prix que ça nous donne une immense valeur. Et Abraham, il a compris la valeur que Dieu lui accordait et l'héritage qu'il lui donnait. Et cet héritage, eh bien, ça a été le sens de sa vie. Ça a été marcher dans la foi. Marcher dans la foi. La foi est un pont, rappelez-vous. Un pont sur lequel nous sommes appelés à marcher. Et si nous croyons qu'il n'est pas solide, on ne va pas y marcher dessus. Mais si nous croyons qu'il est solide, alors il va nous faire passer de l'autre bord. Et on va pouvoir rentrer dans les promesses que Dieu a faites à Abraham. Alors, deux façons de vivre. une façon de vivre par la vue, une façon de vivre par la foi. Si je résume cette vie d'Abraham dans Hébreux 11, mais aussi dans le livre de la Genèse, c'est quelqu'un qui a commencé à marcher par la vue et un petit peu par la foi. Et plus il avance, plus il vieillit et plus il marche par la foi et non par la vue. Et c'est vraiment tout le processus de sa vie, ça. S'il y avait à résumer sa vie, il a commencé à voir l'invisible beaucoup plus à la fin qu'au début. Et ça a été un sacré processus, hein. Ça a été un sacré pèlerinage. Dieu nous dit que, au travers d'Abraham, tous les éléments qui constituent la foi sont là, beaucoup plus que chez Noé. Il y a une progression dans Hébreux 11. Noé, il nous montre la foi dans la durée, dans la persévérance, si vous l'aimez. Mais Abraham, il y a tous les ingrédients qui constituent la foi. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. On va en voir quelques-uns ce matin, mais qui me paraissent très, très importants. Alors, je n'en ai noté quatre. Il y en a sûrement d'autres encore à voir. Mais d'abord, la foi est un pèlerinage. Il y en a un deuxième, c'est la foi, c'est la patience de la foi. Le troisième ingrédient que je vois, la puissance de la foi. Et puis un dernier, la positivité de la foi, la décharge que c'est, la puissance que c'est. Et puis un dernier quand même, un cinquième, c'est la démonstration de la foi au travers de l'offrande qu'il a dû faire de son fils. Et Dieu qui ne s'est pas contenté d'avoir une foi du bout des lèvres, mais qui lui a demandé une démonstration de sa foi. Et ça, c'était vraiment... Alors on commence par le pèlerinage. La foi est un pèlerinage. Alors, j'aimerais distinguer. Ce n'est pas un vagabondage. Parfois, on se distingue mal. Pèlerinage, vagabondage. Vagabondage, tu ne sais pas où tu vas. Tu vas, tu marches, tu tournes en rond. Mais ce n'est pas ça, la marche de la foi. Abraham savait pas où il allait. Il est parti jusqu'à ce que Dieu lui montre. Alors, ce n'est pas un vagabondage parce que c'est une parole de Dieu sur laquelle il est parti. Parfois, on n'a pas tellement d'éléments. On ne voit pas tellement ce qui est devant nous. Mais il y a une parole de Dieu. Et à partir du moment où il y a une parole de Dieu dans ta vie, une parole de Dieu qui te dit « Tu es mon bien-aimé, je t'aime, j'ai pour toi une vie en abondance, j'ai pour toi des sources d'eau vive pour les autres autour de toi, je veux faire de toi une source de bénédiction. » Ça, c'est une promesse qui est générale. À partir du moment où tu marches avec une promesse dans ta vie, ce n'est plus un pèlerinage. Et alors, cette promesse-là, eh bien, il y a cette promesse, il y a eu cet échange, rappelez-vous, dont il a été question avec Richard Hayes, cet échange de nature à la croix, qui n'est pas seulement le lieu où l'on a déposé nos péchés, où l'on a été pardonné, mais le lieu où la nature de Jésus nous a été donnée. Et ce pèlerinage, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec le Christ. On le fait avec cette nature qu'il nous a donnée. Alors elle est peut-être encore bien à venir, bien à grandir, mais il y a eu un échange à cette croix. Et cet Abraham a marché avec Dieu, avec cette vie de Dieu, cette promesse de Dieu, qui a fait que ce n'était pas un vagabondage, mais c'était un pèlerinage, une marche. La foi est une marche. On ne peut pas être assis seulement dans une vie de la foi. Il y a une action. On l'a vu avec Noé. Il a commencé à bâtir une arche. C'était une démonstration de ce qui était en lui. Et je pense que le Seigneur a pour chacun de nous une marche de la foi. Mais il faut faire les premiers pas. Il faut faire les premiers pas. Parfois, on peut se tromper. Moi, souvent, c'est déjà arrivé, où j'ai pensé que Dieu m'appelait dans un domaine. J'ai commencé à marcher et je me suis aperçu que les portes se fermaient. C'était pas ça. Il n'a pas fallu rester dessus. Hein. Il a fallu se dire, Seigneur, je me suis trompé. Mais montre-moi, Seigneur. Et j'ai continué à marcher. Et je me rappelle, une des grandes gaffes qu'on avait faites, c'est, une ancienne équipe se rappelait, quand on voulait aller changer de locaux pour le collège Daniel, qui n'avait pas ce château, on avait vraiment demandé à Dieu des critères de ce qu'il nous fallait comme lieu pour l'école. Et alors, je me rappelle, on a trouvé, bien sûr, un lieu qui correspondait. C'était à Ilzac. C'était un lieu de formation. C'était super. Il y avait un champ, des prés. On avait demandé une serre pour faire des fleurs. Enfin, bref. Il y avait tout. Alors, on a dit, c'est ça. Et on a fait le tour, on a marché, on a jeûné, on a prié. Et c'était pas ça. Mais vous savez ce que Dieu l'a vu ? Il a vu que nous étions en marche. Il a vu que même si nous pouvions nous tromper parfois, on avait un cœur pour lui. Eh bien, c'est ça que Dieu veut. Il veut un cœur pour lui. Et parfois, dans la marche de la foi, eh bien, on se trompe, parfois. Mais ce n'est pas grave. Et ce cœur pour lui fait qu'on se relève, on marche de nouveau. Et il a fait quelques mois après, tout s'est débloqué pour une autre situation bien meilleure que celle à laquelle on pensait. Donc, voyez, dans la marche de la foi, l'important, c'est de marcher. L'important, c'est de marcher. Il y a des pas, des petits pas à faire, parfois, dans la guérison, dans la restauration, dans le social. Il y a des marches de foi. Là, un pèlerinage, une marche conduite par Dieu. Alors, ensuite, la patience de la foi. Alors, Hébreux 11, hein, c'est par la foi qu'il vint s'établir sur la terre promise, dans une terre étrangère, habitant dans des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ils étaient co-héritiers d'une promesse, et ils ont fait que vivre dans des tentes. Ça, c'est assez extraordinaire. Les patriarches n'ont pas possédé cette terre. Ils ont vécu dans cette terre, ils ont foulé cette terre, mais ils ne l'ont pas possédé de façon définitive. Ils vivaient sous des tentes. Et donc, ils attendaient une autre cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu l'architecte et le constructeur. Alors là, il est question d'attente ici. Je me rappelle un jour, c'est Denis qui présidait le culte et qui nous parlait du vase. Et il disait, la période la plus difficile dans le vase, c'est quand il doit sécher sur l'étagère et qu'on le laisse comme ça longtemps sur l'étagère. Et il dit, mais à quoi je sers ? Et cette attente, Abraham l'a vécue aussi pendant longtemps. Il avait une promesse d'une descendance. Et cette descendance ne venait pas. Et vous savez, les bêtises aussi qui ont été faites. Il y a eu Ismaël. On a voulu précéder. Hein, on a voulu faire par soi-même. Et puis ça fait des histoires. Mais il a dû persévérer jusqu'à la fin. Mais il y avait les yeux sur quelque chose que nous, on a parfois du mal à saisir. Que moi, j'ai du mal à saisir. C'est cette cité qui a de solides fondements. Il attendait une cité. Alors, on a fait beaucoup de messages ici sur la notion que notre héritage n'est pas seulement dans le ciel, mais qu'il est aussi sur la terre. Mais il serait faux de dire que notre héritage n'est que sur la terre et qu'il n'est pas aussi dans le ciel. En fait, il est dans ces deux domaines. Et la Bible dit ici qu'Abraham, il attendait une cité au solide fondement. Cette cité au solide fondement, de quoi s'agit-il ? Alors bien sûr, on peut voir la parole avec Jésus qui dit qu'il nous a préparé une place. Il nous a préparé une place, une demeure, là-haut. Donc il y a une cité, il est question d'une cité de Dieu. Il est question d'une nouvelle Jérusalem qui va descendre sur la terre. Ce n'est pas nous qui montons, c'est elle qui descend sur la terre. Mais cette cité qui a des solides fondements, c'est quelque chose que Dieu a préparé pour son peuple. Un lieu de demeure éternelle, qui est la réalité. Pas visible, mais invisible. Et cette attente d'Abraham, moi, ça me touche. Vous voyez, il n'était pas installé complètement dans cette vie, mais il a toujours marché, les yeux fixés sur une promesse qui ne pouvait pas se réaliser complètement dans sa vie. Et en fait, ça veut dire que si rien ne se réalisait dans sa vie, mais cette promesse était toujours en attente, c'est cette promesse-là qui le faisait encore marcher. Si nos attentes sont seulement dans cette vie, ou dans des choses purement matérielles, on risque parfois d'être déçu. Et la déception ne vient pas du fait que, eh bien, c'est Dieu qui ne fait pas son travail. La déception, ça vient toujours du fait qu'on met nos attentes là où il ne faut pas. Et alors on est déçu. Et Abraham, bien qu'il savait que la terre lui était promise, il avait aussi cet héritage dans le ciel qui l'attendait. Il avait les deux. C'était un homme de foi. Vision du ciel qui est juste, vision de la terre qui est juste. Et quand on a une vision des deux qui est juste, alors là, il y a une marche de la foi qui est solide, qui est vraiment solide. Abraham, les solides fondements, je crois que Jésus est le fondement. Hein ? Il nous est dit dans 1 Corinthiens 3, on ne peut pas poser d'autre fondement que Jésus. Il est le fondement. Ce qu'on a reçu comme enseignement, il y a 15 jours, sur la justice, c'est un fondement. Et sur ce fondement, on peut bâtir avec de l'or. On peut bâtir quelque chose de solide. Nous sommes une habitation pour Jésus. Et une cité, c'est l'ensemble des maisons que nous formons. Et je crois qu'il y a quelque chose de cette cité, c'est nous, quelque part, cette cité de Dieu. C'est nous, peuple de Dieu, maison du Seigneur, construction du Seigneur, sur le fondement de la justice de Dieu, sur le fondement de son amour. Nous sommes quelque part une cité. Nous sommes son corps, mais nous sommes son temple. Quelque part, nous préfigurons une cité qui n'est pas faite avec des choses matérielles, mais qui était faite avec des hommes et des femmes. Voyez. Donc cette cité, elle n'est pas parfaite encore sur cette terre, mais on l'attend, elle a de solides fondements. Et déjà maintenant, Dieu pose des fondements solides dans ta vie, dans notre vie, parce que ces fondements sont éternels. Même si un jour on quitte cette terre, les fondements que Dieu a mis dans notre vie, c'est éternel. Il y a une vie éternelle qui est là. Il y a quelque chose, et nous voulons bâtir et avoir cette foi d'Abraham qui a attendu tellement longtemps, mais sans perdre la foi. Combien parfois on peut entendre au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans, des promesses. Et où elles sont? Vous voyez, parfois on entend ça. Où elles sont? Parfois on est 1 an, 2 ans au chômage, et puis on se dit, mais où elles sont les promesses de Dieu? Dans les temps dans lesquels on rentre, nous avons besoin de comprendre que les promesses de Dieu sont vraies, véritables, et de marcher avec les promesses de Dieu. Et si nous marchons avec seulement les choses comme béquilles, les choses simplement que l'on voit, que l'on touche, on risque d'être déçu. Et cette déception, elle ne viendra pas de Dieu, mais ce sera nous-mêmes. Abraham n'a pas été déçu, parce qu'il a marché jusqu'au bout. Il a attendu, il avait les yeux fixés. Dans un sens, je disais, on peut tellement penser au ciel qu'on perd son utilité sur la terre. Mais dans un autre sens, on peut tellement penser à la terre qu'on en oublie les choses célestes. L'apôtre Paul nous dit, pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et là, je crois qu'il y a aussi une vérité. Vous savez, la parole de Dieu, c'est des éclairages comme ça, des coups de projecteur qu'on donne sur un domaine, mais qui doivent s'équilibrer par l'ensemble du conseil de Dieu. Et l'ensemble du conseil de Dieu, c'est ce que Abraham aussi vit. Voilà, il a attendu cette cité, il a dû jusqu'au bout, et à la fin, il a eu cette promesse. La puissance de la foi, Hébreux 11, 11, 12, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. Alors là, on a une démonstration de la foi. C'est pas seulement une promesse, mais il y a un moment donné, ça s'incarne. Et ça s'incarne. Et l'essence qui a fait que ça s'incarne, eh ben, c'était que la foi, pourtant, la foi d'Abraham, elle n'a rien de parfait, vous savez. Combien de fois il a douté, combien de fois Sarah aussi. Mais pourtant, ils se sont relevés. On ne sait pas exactement tous les détails de leur vie. Mais quand même, il est dit, elle a cru, Sarah. Même si au début, elle a un peu ri, elle a cru. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, tout est possible à celui qui croit. Nous sommes dans des temps aujourd'hui où nous devons vraiment avoir la foi. Je pense à ces projets que Dieu met sur notre cœur en tant qu'Église. Je pense à ces défis de la foi par rapport à ce côté social que Dieu nous demande de développer et qui est vraiment une réponse pour notre temps. Je pense aussi à ce lycée pour lequel je vous demande de prier. On est en réunion de travail encore demain soir. On aura une réunion et on se dit, mais Seigneur, on voudrait vraiment, on croit que c'est ton projet, un lycée pour toi. Et ce temps où les enfants commencent à réfléchir, commencent à former une personnalité, nous avons besoin de maîtres et d'enseignants qui sont enracinés en toi. Et ça, c'est des choses de la foi. Nous vivons ensemble des défis de la foi très concrets, très concrets. Et c'est pour ça, cette méditation des bronzes est importante. Et j'ai eu des rappels de quelques-uns d'entre nous qui m'ont fait du bien, quelques mails qui m'ont dit, Luc, on croit que ce ne sont pas seulement des rêves, mais que ce sont des projets de Dieu. Alors voilà, la positivité de la foi, Hébreux 11, 13, 16, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Vous vous rendez compte? Ils les ont vues, et saluer de loin. L'important, c'est qu'ils les ont vus. Voyez, ils les ont vus. Saluer de loin, peut-être pas, ça s'est pas manifesté là, mais dans l'invisible, ils ont vu les choses que Dieu leur avait promises. Et Dieu voudrait que l'on voie, vous savez. Quelque part, c'est vrai qu'on marche sans voir avec les yeux, mais il veut qu'on voie avec les yeux de la foi, ça c'est sûr. La prière de Paul, c'est « Seigneur, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient ». Donc, si Dieu nous dit « Nous n'avons pas marché par la foi », par la vue, mais par la foi, ça ne veut pas dire que c'est sans voir avec les yeux de la foi. Nous devons voir avec les yeux de la foi. Et le Seigneur voudrait nous montrer, illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on voie les bonnes choses qu'il a préparées pour Guebwiller, pour les églises de Guebwiller, pour l'Alsace, pour notre pays de France. Et je crois que c'est en voyant quelque chose qu'on peut être un instrument de justice. Je rappelle toujours, on a eu ici samedi, il y a 3 semaines, le spectacle Martin Luther King. Alors, c'était pas sur le « j'ai fait un rêve », mais c'était sur ce qu'il... Quand même, il y avait du rêve qui passait. Et beaucoup de choses qu'il a rêvées sont devenues réalité. Il a vu dans l'esprit. Il a vu quelque chose. Le rêve qu'il dit, il a vu son pays changer. Il a vu un jour les Noirs et les Blancs marcher ensemble, prendre les mêmes bus, etc. Et ça, ça lui a donné... Et il a vu que c'était conforme aux Écritures. Et alors, il s'est battu pour le rêve qui n'était pas le sien, mais qui était celui de Dieu. Et donc, quelque part, il y a des rêves de Dieu, il y a des visions de Dieu. Dieu veut que l'on voit les choses. Quand on voit, vous savez, que ça soit dans un rêve ou tout ça, il y a une capacité d'imagination qui est là, que Dieu nous a donnée pour nous, pour qu'on puisse alimenter la foi. Et ça, c'est très important. J'aimerais rappeler, quelques-uns le savent ici, mais la constitution au niveau de cette église, j'étais aux États-Unis et j'ai dit, mais Seigneur, si vraiment tu veux qu'il y ait une implantation d'église, il faut que tu me parles à moi et pas seulement par interposition. Et cette nuit-là, j'ai vu vraiment une foule qui était désespéré. Et je me suis vu en équipe, je ne reconnaissais pas les visages, mais sur une sorte de chose un peu surélevée comme ça. Et il y avait une telle compassion de Dieu dans nos cœurs, dans le mien, dans celui de mes frères et sœurs qui étaient avec moi, pour tous les gens. On priait pour les gens, il y avait guérison, il y avait une telle onction, je me suis réveillé en larmes. Larmes de compassion, larmes d'être de voir ce que j'ai vu. Et pour moi, c'était, Dieu dit, ben voilà, c'est là que je veux que tu ailles. Et vous savez, on n'a encore pas vu. On n'a pas vu. On a vu des petites prémices, des petites choses. Mais c'est ce rêve-là qui n'est pas fabriqué, mais qui est un rêve que Dieu donne, où la compassion s'exerce pour nos contemporains. C'est ce rêve-là qui fait qu'on tient. Et qu'on dit non seulement on tient, mais on veut continuer à marcher dans la foi. Jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on a vu avec les yeux de la foi. Et ça, c'est vrai pour le corps, mais pour toi personnellement aussi. Dieu veut te donner, il veut illuminer les yeux de ton cœur. Il veut que tu vois quelque chose, que tu te vois toi-même. Déjà, ça commence par là, comme un prince, comme une reine. Et ensuite, que tu commences à voir les autres et ce pays changer. Et voilà, la foi, c'est ça. Voyez. Et Abraham, il l'a vu. Les choses. Il les a salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. C'est étonnant comme phrase. Dieu n'a pas honte. Pourquoi ? Parce qu'il nous a préparé une cité. Qu'est-ce qu'il nous a préparé, hein? Il y a des trucs qu'on ne sait pas. Mais Dieu n'a pas honte. Voyez, même si on ne voit parfois pas grand-chose, dans cette vie, Dieu n'a pas honte. Parce qu'il a préparé quelque chose d'extraordinaire pour chacun de nous. Alors, ce n'est que 500 ans après la mort de Jacob qu'Israël a commencé à posséder Canaan. Mais il n'y aurait pas eu de possession de Canaan s'il n'y avait pas eu un Abraham qui avait commencé à fouler le pied de cette terre-là. Alors je crois que nous, adultes, nous qui sommes ici, nous avons des terres à fouler si nous voulons que la génération d'après foule les terres de la promesse. Nous avons à ouvrir des voies pour les générations d'après. Si nous accomplissons pas ce que Dieu a pour nous dans la foi, pour nous aujourd'hui, eh bien nous permettons pas ensuite à ce que la génération d'après aille plus loin et foule et prenne possession déjà de l'héritage, pleinement, voyez. Donc nous devons rentrer dans cet héritage, c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour nos enfants également. Il y a des terres qui sont à fouler, si on les foule, elles deviendront possession. Il y a des signes prophétiques. Moi, je crois, un jour, je discutais avec des amis cet été par rapport à ces projets d'université chrétienne. Et je me disais, mais peut-être ça va être fou, ça va être peut-être un embryon, comme un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelait Abraham Kuyper. C'était un pasteur hollandais. Il aimait son pays, il aimait son église. Et Dieu lui a dit de s'occuper un peu de politique, de s'occuper de son pays. Alors il a créé un parti et puis il est devenu Premier ministre. Et la première chose qu'il a faite, étant Premier ministre, il a créé une université chrétienne. Parce qu'il a vu une génération de jeunes à lever dans la parole de Dieu. Et alors, ça a été cinq étudiants, ridicules aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tellement précieux. Aujourd'hui, elle existe encore, université libre d'Amsterdam, des milliers d'élèves. Et je ne sais pas au niveau de la foi authentique des enseignants, mais ce que je sais, c'est que pendant pratiquement un siècle, ils ont formé des leaders dans les églises et dans les institutions universitaires, dans le monde anglophone en particulier et le monde néerlandophone. Donc voilà, un rêve, un accomplissement, fouler un terrain, même petit au début, faire des brèches pour la génération d'après, et Abraham l'a fait. 500 ans après, ils sont venus sur la terre, ils ont pris possession. Alors, j'aimerais citer juste David, psaume 27, 4, il est dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Là, nous avons chez lui quelque chose d'extraordinaire, les deux volets, nous avons le volet d'habiter dans la maison de l'Éternel, et puis le volet aussi de David le guerrier, qui ne s'est pas contenté d'être contemplatif, mais qui a été un homme d'action. Et cet équilibre entre l'action et l'amour de la présence de Dieu a fait la réussite de cet homme-là, de cette royauté. Là, contempler le ciel et marcher sur la terre en même temps, aimer la présence de Dieu, et puis en même temps, faire la guerre quand il le faut au nom de l'Éternel. Eh bien ça, nous avons un équilibre extraordinaire chez David. Job, après toutes ces épreuves, voilà ce qu'il dit. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente. » Au-devant de moi. Job, il attendait la résurrection. Il a vu la résurrection, il l'a attendu. Et ça a été ce qui a fait passer ces épreuves. Et ça, c'est au chapitre 19. Donc, nous ne sommes pas à la fin de complètement de Job. Mais il a vu cette puissance de résurrection en Dieu. Alors, voilà le côté positif de la foi. C'est ce côté de la foi qui donne non seulement une espérance, mais qui transforme ta manière de vivre, ta manière de marcher. Et je termine en parlant de la preuve de la foi. Et ça, c'était le plus délicat. C'est Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et là, nous avons un passage extraordinaire. Nous avons dans ce chapitre de la Bible qui est traduit ici, c'est le chapitre Genèse 22, nous avons la première fois dans toute la Bible où le mot « adorer » apparaît. C'est lorsqu'on demande à Abraham, quand on le voit partir avec son fils et les bûches de bois et tout ça, on dit « qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas, Abraham ?» Et Abraham, qui savait qu'il allait sacrifier son fils, il a dit, je vais aller adorer. L'adoration, c'est le don de sa vie. Voyez, c'est le don de sa vie. Dieu a été fait justice pour nous. Et la réponse à la justice, c'est le don de sa vie. C'est se donner à lui. C'est dire, me voici Seigneur. Tu as tout fait pour moi. Eh bien, en retour, eh bien, moi, je viens à toi. Et Abraham, ce sacrifice que Dieu lui a demandé, c'était vraiment l'expression ultime de la foi et une préfiguration, bien sûr, du sacrifice de Jésus. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Et vous connaissez l'histoire. Tout à l'heure, Huguette parlait de l'année de grâce. C'est l'année du jubilé. Et cette année du jubilé, elle était annoncée comment ? Par des sons de trompette qui étaient du chauffard au début de cette année du jubilé. Et le chauffard, il est venu où ? Dans Genèse 22, lorsque le bélier a été pris dans les buissons, dans les malédictions, c'est les épines, il a été pris, et on a pris le bélier et on l'a offert à la place d'Isaac. Et les cornes de bélier, on les a prises et on en a fait des trompettes. Et c'est le chauffard. Et c'est pour ça que l'ennemi tremble chaque fois qu'il entend le chauffard, parce que ça lui rappelle une vieille histoire, ça lui rappelle que quelqu'un est mort à la place des hommes, et c'est Jésus lui-même. Une corne qui n'a pas été faite de main d'homme, qui n'a pas été travaillée avec l'or et l'argent, une corne qui a dû demander le prix de la vie d'un animal et qui annonce le prix de la vie de Jésus. Voilà le jubilé annoncé. Donc la mort de Jésus, préfigurée par Isaac, donnée par Abraham, il n'y aurait pas de jubilé possible sans l'obéissance d'Abraham jusqu'au bout. Alors voilà, alors parfois on dit ben voilà, c'est mon Isaac que je dois offrir tout ça. Dieu n'est pas un Dieu qui... il veut des sacrifices d'amour, vous savez. Il veut des réponses d'amour. Il ne veut pas des meurtrissures, il ne veut pas... Ça a été payé déjà. Ça a été payé. Mais il aime qu'on vienne à lui. Et comme dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée qui répond à son bien-aimé et qui va le suivre en sautant sur les montagnes et les collines, c'est une réponse d'amour. Et cette réponse d'amour que Dieu a donnée, que Abraham a donnée à Dieu au travers de ce sacrifice. Alors voilà un héros de la foi, une foi patiente, une foi qui a attendu, une foi qui n'a pas obtenu toutes les promesses, mais qui les a salués de loin. Une foi qui a vu l'invisible. Rappelez-vous Élisée, et il lui dit, si tu vois mon manteau, alors tomber, alors tu pourras le prendre. Il fallait qu'il voie dans l'invisible pour être revêtu. Et je crois que nous devons apprendre, comme Abraham, à voir dans l'invisible les belles promesses qui sont pour nous. Et je sais que chacun d'entre nous, on a peut-être reçu des rêves de la part de Dieu. Eh bien, entretenez-les. Commencez à les voir, à prier par rapport à ça et à croire que les cieux sont ouverts parce qu'il y en a un qui a obéi jusqu'au bout et qui a été jusqu'à l'accomplissement de toute la loi à cause de nous, pour qu'on puisse rentrer dans un plein héritage. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'exemple d'Abraham qui a été justifié. Parce qu'il avait cru, Seigneur, en toi. Il avait déjà vu des choses que nous pouvons lire dans ta parole, dans le Nouveau Testament. Merci, Seigneur, pour cet exemple de foi, de persévérance. Et Seigneur, justifié par toi, rempli des rêves qui viennent de toi, nous voulons, Seigneur, continuer la marche de la foi. Là où tu nous as placés, Seigneur, dans l'Église, dans nos familles, en tant que père de famille, en tant que fils ou fille, en tant que tes enfants, Seigneur, je te prie de nous aider dans cette marche. Merci de nous avoir éclairés, renouvelés dans l'enseignement, dans la compréhension de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous à la croix. Et Seigneur, sur ces bases-là, nous disons, nous avançons, Seigneur. En ton nom, gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse.